RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour et bienvenue dans le supplément du dimanche. De nos jours, on dit être en situation de handicap. Émeric, lui, n'a pas ses pudeurs. Il est handicapé en fauteuil, se bat beaucoup, ne cède rien et ne peut rien s'il est seul. Pour que Émeric soit à sa place, parmi nous, il faut des gens autour. Émeric le dit, il veut ouvrir des portes pour lui et pour les autres. La leçon de vie d'Émeric, dans un instant, qui peut-être fera changer notre regard la prochaine fois que nous croisons une personne en fauteuil. La semaine dernière, nous étions avec les Soudanais qui, depuis un an, fuient la guerre. Nous avions sillonné le camp de Renk au Soudan du Sud, où ils sont massés, et l'Égypte aussi, où bon nombre sont réfugiés. Aujourd'hui, Caroline Chauvet nous conduit dans le nord-est du Ghana. Là-bas, ce sont les réfugiés du Burkina Faso voisin, chassés par les exactions des djihadistes.
Comment ça va?
Ouais, toi.
On y arrive, hein?
Ouais. Enfin.
Enfin?
Ouais.
Écoute, ça fait combien de temps qu'on a ce projet dans la tête?
Ça fait plus d'un an qu'on cherchait à pouvoir faire ça et je suis super content de pouvoir faire ce projet.
Faire des études supérieures quand on est handicapé, cela reste un parcours semé d'embûches. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, l'an dernier, plus de 58 000 étudiants étaient en situation de handicap. Certes, c'est 6 fois plus qu'il y a 20 ans, mais cela ne représente que 2% de l'ensemble des étudiants en France. Face aux difficultés, beaucoup abandonnent. Ce n'est pas le cas d'Émeric Truffert, étudiant dans une grande école. Un fauteuil roulant à Sciences Po, c'est un grand reportage de Laurence Théo.
Émeric Truffert, 20 ans, étudiant en fauteuil roulant à Sciences Po, avait effectué il y a 4 ans son stage de 3e à RFI. Une expérience enrichissante pour nous deux et la naissance d'une belle amitié. Un regard doux et volontaire, le nez qui se retrousse et un sourire de vainqueur, Émeric, en pull bleu clair ce jour-là, se déplace sans difficulté dans la prestigieuse école.
La chose que j'ai à Sciences Po Lille aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 ascenseurs qui me permettent en fait d'aller partout dans l'établissement, et donc il n'y a pas de souci d'accessibilité particulier, en tout cas sur le bâtiment de Sciences Po Lille.
Dans le grand amphithéâtre, Émeric a l'habitude de se placer tout en haut. Il faut l'aider à sortir l'ordinateur de son sac, enlever son manteau. Son camarade Timothée est habitué à ce rituel.
En première année, c'est un peu surprenant. On se dit, ah oui, en fait, il ne peut pas faire ça lui-même, quoi. Et on ne s'en rend pas compte, forcément. Et maintenant, avec le temps, bah, j'ai pris l'habitude. Pour moi, c'est comme enlever mon manteau à moi.
Pour la prise de notes, Émeric a besoin d'aide.
C'est Nicolas qui prend les notes pour me permettre de pouvoir suivre le cours magistral dans les meilleures conditions et avoir une prise de notes qui soit complète et que je ne sois pas dépassé par la rapidité du cours. En fait, je regarde ce qui peut manquer, ce que je peux avoir envie de rajouter pour des précisions, par exemple sur des définitions, sur des articles, sur des arrêts.
Parce que là, tes mains ne te permettent pas de taper vite.
C'est ça, effectivement, en fait, une partie du handicap fait que la rapidité d'écriture, même à l'ordinateur, ne me permet pas de suivre un cours magistral pendant 2 heures d'affilée, au même rythme que la parole du professeur.
Et lors des examens, Émeric a recours à une secrétaire. Ses camarades Timothée et Audrey ont beaucoup appris de lui.
Émeric, il fait vraiment en sorte que rien ne soit tabou et il arrive à faire des blagues et tout. Et franchement, ça a changé un peu mon rapport justement avec le handicap, parce qu'avant j'osais pas vraiment en parler. Bah maintenant avec Émeric on peut voir un peu ce qui est ok, ce qui est pas ok, voilà, donc c'est vraiment sympa. Là pour notre 3e année on doit partir à l'étranger et lui bah, il a tout fait justement pour pouvoir aller là où il voulait et faire en sorte que les choses bougent et pas s'adapter justement à ce qui est fait, mais faire en sorte que les choses s'adaptent pour les améliorer.
Il défend sa cause, quoi, et c'est vraiment quelque chose qui l'anime au quotidien, on va dire.
Et puis même rien que pour aller aux toilettes ici au quotidien dans l'IEP, il a du mal à se débrouiller tout seul. Je sais qu'il faut souvent qu'on aille l'aider, c'est pas facile, quoi.
Et ce qui est remarquable aussi, c'est que pour l'entrée à Sciences Po, il a préféré Sciences Po Lille parce qu'il était là pour ses compétences et parce qu'il a réussi le concours. Et pas pour répondre à des quotas, ou voilà, il est là parce qu'il l'a réussi
comme tout le monde.
Voilà,
finalement quelqu'un de normal en fait.
Le handicap physique d'Emeric entrave parfois sa vie sociale.
Lorsqu'on va aller en soirée, faut me ramener. Si on boit un peu, faut faire attention quand même que je revienne en bon état. Et tout ça, ça peut freiner à terme des groupes, de m'intégrer au sein du groupe. Et ça, c'est pas des difficultés. Enfin, en tout cas, j'essaye de les cacher, même si personnellement, ça peut atteindre de temps en temps.
Est-ce que tu t'es déjà senti rejeté ?
Senti rejeté, non. Je pense que c'est un mot fort. Après, oui, je pense que de manière inconsciente, parfois, on m'a pas proposé des soirées parce que, il faut penser à ça. Mais au lieu de s'emmerder, même si les gens le disent pas, on va pas l'inviter, comme ça, au moins... À savoir que si je suis en pleine soirée et que j'ai besoin de faire pipi ou d'aller aux toilettes, si... Je connais personne dans la soirée. Si je vais pas demander à quelqu'un pour m'aider, je me fais pipi dessus. Donc autant demander à la personne, même si je la connais pas, qu'elle accepte ou qu'elle accepte pas, c'est son choix. Mais moi, le plus important, c'est que la fonction d'aller aux toilettes soit remplie.
Malgré un fauteuil électrique très performant, véritable petit bolide, aller à la bibliothèque à l'extérieur de Sciences Po est un parcours semé d'embûches. Emeric doit éviter les marches de l'entrée de Sciences Po. Il emprunte donc un autre chemin, mais se heurte à une porte récalcitrante.
La porte n'est pas adaptée, donc je dois attendre que... Tu peux te décaler, je vais te montrer comment est-ce que j'ouvre et tu comprendras la difficulté. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois. Pardon. Attends. Hop. À l'origine, oui, je prends la poignée, je décale mon fauteuil, je tire la porte fort et puis je passe sur le côté en faisant un zigzag avant que la porte se ferme. Je roule sur la route parce que sur le trottoir, en fait, il y a des pavés comme tu peux voir et les pavés sont super désagréables lorsqu'on est en fauteuil donc voilà, j'ai besoin d'aller sur la route pour plus de confort. Je vais demander à un ami. Excuse-moi, est-ce que tu peux demander où est-ce que je peux passer pour la bibliothèque? Je me souviens plus. Merci beaucoup. Donc sur la maison des assos, où il y a marqué maison des assos, c'est là, c'est ça?
Ouais, il y a quelqu'un qui va sortir.
Ok, merci beaucoup, super. En fait, pour rentrer dans la bibliothèque, je dois passer par le côté gauche de manière subsidiaire parce que au niveau de l'entrée centrale, ce sont des escaliers. Et donc là, on va m'ouvrir. Ensuite, je vais pouvoir accéder. Bonjour, je vais pouvoir accéder à la bibliothèque.
Retour à Sciences Po dans le bureau de Pierre Mathieu, il est le directeur.
Et la situation de handicap, on accompagne. Ma responsabilité en tant que chef de cette école, c'est de faire en sorte que quand on a des étudiants en situation de handicap, là en l'occurrence un handicap quand même qui est assez sévère, qui est pas notre job c'est de faire en sorte que cette personne, elle réussisse dans les meilleures conditions possibles et elle soit aussi la plus épanouie possible. Emeric, c'est plus difficile pour lui d'être étudiant, tout simplement, quel que soit l'endroit où il serait.
C'est une évidence.
Voilà, mais je pense aussi qu'il a des... Ça forge aussi un caractère de bagarreur qui est quand même une force énorme pour lui et qui va le mener dans la vie. Je pense qu'il le mène déjà.
Moi, mon objectif, c'est aussi de relativiser, de dire, OK, il y a des difficultés, mais aujourd'hui, j'y arrive. Même si c'est dur, même s'il y a de la charge mentale, on tient et c'est aussi pour montrer aux autres que c'est possible et qu'il n'y a pas simplement de la fatalité autour du handicap.
Allez, on va commencer. Donc, nouvelle séance de méthode des sciences sociales. Aujourd'hui, on va faire deux choses.
Menton crayonné de barbe, Julien Boyadjian est maître de conférences en sciences politiques. Il n'avait pas anticipé certaines situations.
Par exemple, dans un cours de méthode où les étudiants devaient réaliser un petit travail d'observation sociologique dans un lieu de leur choix en dehors de l'école, je n'avais pas anticipé le fait que se posait la question de l'accessibilité pour Emeric. Bon, il m'en a parlé, on a trouvé une solution sans que ça pose trop de problèmes et sans non plus remettre complètement en cause ce qui était demandé ou la pédagogie du cours.
Au détour d'un couloir, nous croisons une pionnière, Brigitte Lauvergine, la cinquantaine, en fauteuil roulant. Elle est aujourd'hui cadre administratif à Sciences Po, cheveux coupés courts et sourire retenu. Elle a bravé les difficultés, aidée dans son quotidien par des auxiliaires de vie.
J'étais diplômée en 95 et j'ai connu les mêmes aléas qu'Eric, avec la même volonté et les mêmes convictions. Alors certes, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de murs qui se dressent et puis qui se redressent. Mais avec beaucoup de conviction, beaucoup d'humour, on arrive à les franchir à la...
dès qu'en fait je suis arrivé, la première référence qu'on m'a donnée, c'est Brigitte, en me disant que si Brigitte avait pu le faire, c'était possible pour moi. Comme ça avait été fait avant, c'est aussi plus facile, dès que quelqu'un a ouvert la porte, d'y accéder plus facilement.
Mais c'est comme un passeport du combattant, à chaque fois, faut expliquer ce que ça admet aussi comme effort supplémentaire. Il faut savoir se lever le matin, pouvoir avoir les auxiliaires qui viennent vous aider à l'heure, qui viennent vous coucher, qui viennent vous aider à vous déshabiller. Le système ne fonctionnait pas à l'époque. Il fonctionne toujours mal aujourd'hui. Et il m'est arrivé de venir travailler en pyjama parce que je ne voulais pas renoncer. Donc les fois où je devais vraiment être là et qu'il n'y avait pas d'auxiliaire, il m'est arrivé au moins 3 fois de venir travailler en pyjama.
En route vers le domicile d'Emeric.
Donc là, vous attachez le fauteuil.
Oui.
Il faut arrimer solidement le fauteuil à l'arrière du véhicule adapté. André a ce savoir-faire. C'est le chauffeur de taxi d'Emeric, mais aussi un confident, celui qui résout bien des situations compliquées.
Tout est compliqué.
Un lien particulier s'est noué entre eux.
Oh, c'est un bon petit mec. Hein, il ira loin. S'il continue sur sa lancée, il ira loin. Hein, là, bon, Emeric est très bien. Il y a certaines personnes, sans les parents, ils sont un peu démunis.
L'impact du handicap se fait à la fois lorsque on est à la maison, mais aussi lorsqu'on est hors de la maison, puisque il y a eu tellement de fatigue, de stress, d'inquiétude pour l'enfant que ça a des répercussions parfois irréparables sur la santé avec des maladies. C'est le ressenti que j'ai vis-à-vis de ma famille et notamment de ma mère et de mon père qui se sont énormément sacrifiés pour moi et qui aujourd'hui payent une certaine fatigue chronique, un certain stress chronique, des maladies qui en découlent peut-être, des moments où ils ont dû se battre pour que je sois où je suis aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de le rendre et que cette niaque, certes, elle vient du handicap, mais elle vient aussi du devoir de rendre les choses aux gens qui ont toujours été là pour moi.
Allez, go.
Vous avez l'impression d'être particulièrement utile ?
Oh, oui.
Un peu beaucoup même. Ouais. Non, et puis avec André, ça dépasse.
Ça, tu lui expliqueras.
Le lien n'est pas le même, c'est presque un lien familial.
Voilà, donc ça va faire 2 ans quand même. Hein.
Ouais,
et ça donne du sens.
Ça change une vie, hein. Ça change la vie. Emeric. Mon fils, il dit, tu ne vois que Emeric, ça va, ça suffit. Il y a de la jalousie qui se crée, mais bon, c'est de la bonne jalousie. Allez, une bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Au revoir.
Nous sommes au pied de la résidence étudiante où Emeric loue un petit appartement loin de la région où habitent ses parents. Menue et souriante, Clarine, auxiliaire de vie, est là pour accueillir l'étudiant.
S'il fait froid, on met un pyjama, le temps de prendre la douche après.
Allez. Ça fait du bien, Emeric.
Ah ouais. C'est vrai que quand on passe toute la journée à courir, entre guillemets, à droite à gauche, enfin à rouler à droite à gauche en l'occurrence, avec un timing très serré, d'avoir quelqu'un qui vous demande comment votre journée se passe, qui a le sourire, qui est contente de vous retrouver, c'est vrai que ça fait du bien et ça fait plaisir. La manière avec laquelle l'auxiliaire de vie va venir vous aider peut influer aussi sur la manière dont votre journée va se passer, donc vous allez vous sentir, votre humeur, etc. Donc c'est important d'avoir autour de soi des gens qui vont vous permettre d'être bien dans votre peau aussi.
Là, je suis en train de lui enlever son pull du jour, comme ça, là, parce qu'il n'aime pas trop qu'on s'attrape sa tête. Mais attends, qu'est-ce que tu fais?
Quand Clarine, elle arrive et qu'elle voit que je vais pas bien, elle va me dire, ah, vas-y, confie-toi à moi, dis-moi ce qu'il y a. C'est la seule personne qui, le jour de mon anniversaire, m'a emmené un petit gâteau en me disant joyeux anniversaire. On peut avoir des projets, on peut étudier, on peut travailler, mais sans ces personnes-là, je ne suis personne. Jamais je ne pourrais faire ce que je fais sans Clarine ou sans les autres auxiliaires de vie qui m'accompagnent au quotidien.
Ça va. Je pense que ça va. C'est bon ?
Ouais, là, c'est bon.
C'est bon ?
Tu peux mouiller les cheveux comme ça.
Je te mouille les cheveux aussi. On va faire le shampoing quand même. Ouais. Allez. Il aime bien les jeux d'eau sur la tête. Ah oui.
Et sinon, ça a été toute la journée.
Ouais, ça a été.
Emeric, sans Clarine, là, tu pourrais pas te laver tout seul.
Je pourrais laver le haut du corps, mais je resterais bloqué sur la chaise.
Et l'intime aussi, il le lave tout seul.
Donc là, les habits, c'est ça?
Oui. Qu'est-ce que tu veux mettre?
Un truc assez simple, un petit jean, mais sans forcer.
Bah, on remet celui de tout à l'heure. Alors.
Ouais, au pire, ça ira très bien. Ça ira très bien. Ça,
et le haut, qu'est-ce que tu veux mettre?
Le petit pull bleu clair, il était beau, hein?
Ah, la difficulté, c'est d'arriver à lui faire porter le pantalon, mettre les pieds. Il faut faire attention parce que ça lui fait mal quand tu t'appuies trop.
Il faut faire attention.
Qu'est-ce qui fait mal, par exemple?
La raideur. Tout bêtement, les muscles raides en permanence, tout le temps tendus. Et on le cache, mais c'est une réalité.
Voilà.
En fait, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que lorsqu'on a un handicap, moi, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'être coquet et de prendre soin de moi. Et il n'y a pas de distinction entre handicap ou pas handicap là-dessus.
Et ce est lo que se conoce como el tango de la...
Nouvelle journée à Sciences Po.
Vieja guardia.
Durante la guerra de la triple alianza.
Elle débute par un cours d'espagnol. La barbe indisciplinée et l'œil rieur, Vladimir Sirpé, le professeur, salue l'opiniâtreté d'Emeric.
C'est un gamin qui s'accroche, d'accord, qui en a envie, et que, évidemment, ça améliore. D'un point de vue linguistique, il faut s'adapter, d'accord, parce qu'il a des problèmes d'élocution. Mm-hmm. Donc, de ce fait, je ne peux pas lui demander, comme aux autres, de perfectionner son accent. Son raisonnement est correct. Et ça se voit parce qu'en général, la syntaxe, elle est bonne. Il participe. Hein.
Mais donc, vous êtes aussi exigeant avec Emeric qu'avec un autre étudiant?
Ah, mais bien sûr. Ah,
non, même non, si non, sur l'accent, vous me disiez...
Ah, mais oui, donc c'est ça l'adaptation. C'est-à-dire, je sais que je ne pourrais pas obtenir des sons purs et compagnie, mais ce qui compte, c'est que les messages passent. Et dans son cas, les messages, ils passent. Il y a un proverbe espagnol qui dit que si du ciel... il y a des citrons qui te tombent, fais de la limonade. Si del cielo te cae el limone, haz una limonada.
Vous montez ou descendez?
Bon, on descend.
D'accord, quand j'étais... Ouais. Merci beaucoup, voilà. Allez, enchanté, à bientôt.
Merci, salut, de même,
au revoir. Tu vois, lui, il a été dans l'une des parties les plus taboues peut-être aujourd'hui de ma récite, c'est ce côté problème de diction dans la langue. Que j'essaye de cacher au maximum, mais qui se voit dans les langues étrangères, d'autant plus parce qu'évidemment, faut prendre un certain accent.
Attablés devant des croquettes de crevettes et une carbonade, nous terminons ce petit périple dans un restaurant lillois où la conversation devient plus intime. La vie amoureuse n'est pas plus simple que le reste, confie Emeric, même avec une jeune fille handicapée.
Au départ, on voit le handicap seulement comme la charge multipliée par deux. Puis après, on se dit, mais mince, je l'aime et les sentiments sont plus importants que la situation. Donc, on va essayer de trouver des solutions. Mais, faire 6 mois maintenant que c'est terminé réellement, j'ai encore réfléchi sur le sujet. Je me dis, après tout, lorsqu'on a des sentiments pour une personne, handicap ou pas, ça ne doit pas être un critère, un paramètre. On doit avant tout être heureux et vouloir avancer avec la personne.
Est-ce que tu dirais que le fait que tu sois en fauteuil roulant, ça peut faire peur à certaines filles?
Oui, complètement, parce que j'ai déjà reçu des commentaires de la part de filles lorsqu'on discutait, qui me disaient, mais entre nous, c'est bien, dans le privé, c'est cool, on peut discuter, je me sens bien avec toi, mais je ne supporte pas le regard des gens. Si la personne ne vous assume pas dans la relation, aucune relation peut se former. En fait.
Toi, Emeric, tu as 20 ans, le plaisir sexuel, c'est important pour toi?
Comme tout le monde, ça fait partie de ma vie, de mes envies parfois, et j'ai la chance de pouvoir y accéder.
Tu peux avoir des relations sexuelles avec une femme?
Oui, totalement, sans problème. Après, évidemment, c'est différent au niveau des possibilités, mais les plaisirs vont être les mêmes. C'est juste qu'il faut adapter les positions en fonction de la mobilité. S'il y a le dialogue qui est fluide, si les choses ne sont pas cachées et qu'il y a une totale confiance l'un en l'autre, il n'y a pas de souci.
Montrer que tout est possible, c'est sa croisade.
Je sais qu'au départ, personne ne croyait en moi. Et aujourd'hui, je me donne les moyens de montrer qu'il fallait croire en moi et qu'il faudra croire en moi, parce que je suis prêt à tout bouger. Toutes les montagnes, elles vont exploser.
Et t'es prêt aussi à ouvrir le chemin pour les petits Emeric à venir.
Mais c'est surtout ça mon objectif. Réussir seul, c'est bien. Mais moi, lorsqu'on peut transmettre et lorsqu'on peut
ouvrir pour les autres. Pour moi, c'est le plus important. Au fond, ma réussite personnelle, ça m'apportera quoi? De réussir tout seul. Waouh, super. Mais réussir à plusieurs, c'est le plus beau des cadeaux.
Et rien n'arrête Aymeric le Conquérant. Il effectuera sa troisième année de Sciences Po dans la prestigieuse Université Complutense de Madrid, en Espagne.
Bonjour Laurence Théo.
Bonjour Patrick.
Vous êtes journaliste au service France, à RFI. Vous signez donc ce grand reportage avec Aymeric, qui, avant d'être un fauteuil roulant à Sciences Po, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il était en fauteuil roulant, mais à RFI.
Vous vous souvenez peut-être, Patrick, de ce petit fauteuil roulant là, qui passait un peu partout à RFI. C'était ce petit bonhomme de 15 ans, Aymeric. Il allait très vite, je me souviens, j'avais du mal à le suivre. Et ce que je retiens, c'est sa joie, tellement content de faire de la radio et d'être considéré comme les autres. Alors, je me souviens d'une anecdote. On fait une petite séquence en studio. Et je demande à Aymeric quelle expérience vous retenez de ce stage à RFI. Il me raconte des choses et tout d'un coup, Aymeric me dit « Et toi, Laurence, qu'est-ce que tu retiens ?» Et là, je fonds en larmes. Et on est devenus très amis. C'était le début d'une rencontre. Alors, on avait envie de mener un projet ensemble depuis très longtemps, hein, au nom de cette amitié, le suivre à Sciences Po. Et voilà, ça a été l'occasion de réaliser ce grand reportage pour RFI.
Sur les différentes séquences, Laurence, on va y revenir dans un instant. Dans le reportage, Aymeric dit « Il n'y a pas de fatalité et de fait d'un stage à RFI jusqu'à Sciences Po. » Quel parcours quand même ?
Oui, quel parcours quand on sait que tout est plus difficile, même si Aymeric ne se plaint jamais, mais tout est plus compliqué. Et donc son message, vous le disiez, c'est même si on est handicapé, on peut faire des grandes choses. Il veut avoir un destin, ça je l'ai entendu. Et puis je tiens quand même à dire quelque chose, Aymeric a fait sa scolarité à Toulouse-Lautrec. C'est un établissement exceptionnel, le seul en Europe. Il scolarise les élèves du CP au BTS, 240 élèves handicapés pour 110 valides. Avec un centre de soins, on compte 3 soignants pour un élève. Et Aymeric dit qu'il doit beaucoup scolariser à 12 ans. C'est un handicapé de naissance. Il dit, sans Toulouse-Lautrec, j'en serais pas là.
Alors c'est vrai que dans ce reportage, on suit Aymeric de sa vie d'étudiant à Sciences Po jusque dans son domicile, autrement dit, jusque dans son intimité avec son assistante de vie, dans sa toilette. Vous êtes avec lui, avec votre micro. Est-ce que dans toutes les séquences de ces 24 heures avec Aymeric, il y en a une qui vous a particulièrement marqué?
Alors, cette séquence, bien sûr, j'étais un petit peu gênée. Moi, avec mon micro, ben, Aymeric, il était tout nu, hein, pour prendre sa douche. Et encore une fois, là, cette bienveillance, hein, c'était généreux de sa part aussi d'accepter le micro des RFI.
Alors, vous avez également abordé sa vie amoureuse. Quand on est un jeune handicapé, est-ce qu'il est facile d'avoir une vie amoureuse et est-ce qu'il est facile d'en parler ?
Facile d'en parler, non. Il était un petit peu réticent, mais il en a parlé avec beaucoup de simplicité. Oui, il peut avoir une vie amoureuse et une vie sexuelle. C'est plus difficile, forcément, hein, quand on est en fauteuil roulant, c'est moins simple. Mais il m'a dit à un moment donné, comme tout le monde. Il m'a dit, bien sûr, j'ai envie de ça, comme tout le monde. Et je pense qu'il aimerait beaucoup fonder une famille. Bon, il n'en est pas encore là, hein, il est dans ses études. Mais oui, c'est une séquence que je voulais absolument, moi, aborder, en tout cas.
Laurence, j'ai été marquée par un autre personnage qu'on entend dans votre reportage, l'une des collègues d'Aymeric, elle aussi handicapée. Elle raconte que pendant 3 jours, son assistante de vie n'était pas là et qu'elle est allée au travail en pyjama parce qu'elle ne voulait rien céder. Mais en fait, elle n'avait pas le choix. De fait, Aymeric, il est arrivé à Sciences Po, mais on sait que peu d'étudiants en situation de handicap font des études dans le supérieur.
Oui, seulement 2% de l'ensemble des étudiants. Alors, ce n'est pas une question de motivation. Aymeric m'expliquait, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des études. Sauf que, déjà, Sciences Po Lille est adaptée. Mais imaginez-vous une petite université de province pas adaptée pour le handicap. Aymeric dit qu'on décourage aussi les élèves. On lui dit les études vont être ardues, tu vas être fatigable. Donc, il dit qu'il faut changer vraiment les mentalités là-dessus. Il y a des efforts de fait quand même, mais pas suffisamment.
Aymeric dit qu'il veut ouvrir les portes pour les autres. Est-ce qu'il a entendu ce reportage, Laurence ?
Oui, il a entendu ce reportage et il m'a dit c'est un reportage magnifique. Alors ça me fait plaisir, pardon, j'ai l'impression de me vanter un petit peu, mais en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Je crois que j'aurais été très triste qu'il n'aime pas ce reportage. Alors il faut dire que c'est le héros du reportage. Hein.
Et à juste titre. Merci Laurence Théo.
Merci.
Sur RFI, le supplément au grand reportage, deuxième partie. On se retrouve dans 20 minutes.
Franchement, nous nous sentons en dépression. Nous avons fui ici, quittant nos foyers, nos biens et nos bétails. Et nous nous retrouvons ici dans ce camp. Et nous avons vraiment peur de retourner chez nous, de peur qu'ils reviennent nous tuer.
Il fuit les attaques djihadistes dans le pays voisin, le Burkina Faso. Environ 15 000 personnes se sont installées depuis 2 ans dans le nord du Ghana. Un peu plus de 3 000 personnes ont obtenu une attestation reconnaissant leur statut de déplacé. Et parmi elles, plus d'un millier sont installées dans le camp de Zébila, au nord-est du pays. Dans le nord-est du Ghana, les nouveaux réfugiés du Burkina, c'est un grand reportage de Caroline Chauvet.
Dans un paysage aride, frappé par le vent de l'Harmattan, s'étendent des rangées de tentes tamponnées du logo HCR. Nous sommes dans le nord-est du Ghana, près de la ville de Zébila. C'est ici que depuis juin 2023, un camp de réfugiés accueille plus de 1000 personnes venues du Burkina Faso. Ici, femmes, hommes et enfants ont tous fui leur pays. Entre deux tentes, un groupe de femmes garde quelques enfants en bas âge. Elles discutent ensemble. L'une d'elles, sous couvert d'anonymat, accepte de nous raconter son histoire en langue bissa.
Nous étions dans le village et il y a des individus armés non identifiés qui sont rentrés la nuit dans le village. Et ils cherchaient des hommes pour les tuer. Et c'est suite à cela qu'ils ont tué 2 voisins. Et nous avons fui pour nous retrouver là. Et ce que je voulais ajouter, ils sont venus 2 fois dans le village. Ils ont tué des garçons, des jeunes qu'ils ont tués.
Cette dame, son mari et ses 7 enfants ont perdu leur terre et leur bétail près de la ville de Bitou, au Burkina. Ils arrivent au milieu de l'année 2023 dans la communauté de Gentiga, dans le nord-est du Ghana. Quand vous êtes arrivé au Ghana, comment vous vous êtes senti parmi les Ghanéens ?
Vraiment, quand nous sommes arrivés au Ghana, les gens nous ont bien accueillis. On nous a hébergés et on nous a donné à manger. Et suite à cela, comme le nombre de déplacés a augmenté, les gens qui nous ont reçus ne pouvaient pas contenir tout ce monde. Ils ont communiqué avec le gouvernement et c'est suite à cela qu'on a créé un camp pour nous.
Après plusieurs mois dans les familles d'accueil, les autorités et le HCR ont proposé à cette dame et à sa famille de s'installer dans ce nouveau camp de réfugiés de Zébila.
Comment vous vous sentez maintenant dans ce camp, loin de chez vous ?
Franchement, ça va, nous nous sentons à l'aise. Nous arrivons à manger à notre faim, mais c'est juste la solitude et le manque d'activité. Et nos jeunes sont restés pour travailler sur les sites d'orpaillage. Nous remercions également ces gens qui nous ont accueillis là. Mais nos jeunes enfants sont allés chercher de quoi nous envoyer de l'argent. Mais malheureusement, il n'y a pas de travail là-bas. D'autres sont restés, d'autres sont revenus. Et maintenant, nous demandons aux bénévoles de nous aider pour avoir quelque chose. Et pourquoi pas un jour retourner chez nous.
Quelques mètres plus loin, nous rencontrons une deuxième femme. Elle a fui la zone de Soulouby, dans l'extrême sud du Burkina Faso, avec 6 enfants et 2 petits-enfants. Dans ce camp, les réfugiés sont soit Mossi, soit Bissa. Cette femme nous parle en moré, la langue des Mossi.
Des attaquants ont tué 20 de personnes, des membres de ma famille et des voisins qui étaient comme ma famille. Et quand ils nous ont attaqués, on n'a pas pu retourner au village Soudougui pour ramasser nos affaires. Et quand on a fui à pied pour quitter le village, j'étais enceinte. 3 jours après, j'ai accouché et 5 jours après, ma fille a accouché. Et on a continué à fuir jusqu'à arriver à Ouidana et on vivait chez le chef. Et c'est le chef qui nous a ensuite envoyés dans le camp là pour qu'on s'occupe de nous.
Pourquoi pensez-vous que vous avez été attaquée ?
Nous étions dans le village et je ne sais pas pourquoi on a été attaqué. Ce serait mentir de dire que l'on sait pourquoi.
Comment vous vous sentez maintenant ?
Quand je pense à ce qui m'est arrivé, je suis vraiment triste. C'est une désolation.
Cette femme apprécie l'accueil des villageois ici. Et même si ces derniers parlent plutôt le koussal, ils arrivent de mieux en mieux à se comprendre. À l'arrière du camp, un vieillard est assis avec deux jeunes hommes. Ils sont ses beaux-fils et ne vivent pas dans le camp. Les trois hommes écoutent une chaîne de radio d'Accra et discutent de leur situation. Le vieux monsieur, qui dit avoir 72 ans, s'ouvre à nous. Il vient lui aussi de Bitou, la même zone que la première réfugiée.
Ce jour-là, nous étions à la maison dans nos cases et nous avons appris que le village était en feu et nous avons fui. Des personnes ont été blessées et les attaquants ont tué d'autres personnes.
Vous savez qui vous a attaqué ?
Nous ne savons pas qui nous a attaqués. Ils sont venus dans le village parce qu'il y avait une compétition de football. Et après cela, ils se sont mélangés, ils sont entrés dans le village. Sinon, nous ne savons pas qui étaient ces personnes-là.
Vous qui avez vécu cette attaque, comment vous vous sentez maintenant ?
Franchement, nous nous sentons en dépression. Nous avons fui ici, quittant nos foyers, nos biens et nos bétails. Et nous nous retrouvons ici dans ce camp. Et nous avons vraiment peur de retourner chez nous, de peur qu'ils reviennent nous tuer.
Ici, dans le camp, comment vous sentez-vous ? Et qu'est-ce que vous faites de vos journées ?
Pour être honnête, au camp ici, nous nous sentons en sécurité et bien. Mais nous sommes dans le stress et la dépression, nous ne faisons rien ici. Nous sommes assis, on nous donne à manger, à boire, nous sommes là, on ne fait rien. Nous avions chacun des métiers respectifs que nous exercions dans nos villages. Mais depuis que nous sommes ici, on nous loge, on nous donne à manger, mais jusque-là, on ne fait rien. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est s'organiser et que chacun reprenne son travail dans le camp pour aboutir à quelque chose, en espérant un jour retourner dans nos villages respectifs avec la paix.
Dans ce camp, peu d'hommes jeunes, souvent des femmes, des vieillards et des enfants. Plus loin, une trentaine d'enfants jouent. Deux équipes face à face doivent attraper une bouteille d'eau au milieu du terrain de jeu. Parmi eux, un jeune adolescent du village voisin est venu passer du bon temps avec ses amis du camp.
Je suis content, je suis venu pour rencontrer des amis et jouer, et comme ça, on peut mieux tous se connaître.
Ici, les enfants réfugiés et ceux du village apprennent dans la même école, à Tarikom. Ce village de 2600 habitants est situé à moins d'un kilomètre du camp. Nous nous rendons à Tarikom. Sous l'arbre à palabres, plusieurs villageois se sont réunis. Ces habitants ont accepté, il y a plusieurs mois, de donner environ 16 hectares aux réfugiés. C'est ce que vous nous expliquez Ambawila Awale. À 75 ans, il est le land priest, c'est-à-dire le responsable traditionnel des terres de sa communauté.
En tant que land priest et propriétaire des terres de cette communauté, j'ai eu pitié de ces gens quand j'ai appris qu'ils avaient besoin de ces terres pour leur permettre de s'installer.
Et ces terres, elles ne vous manquent pas ?
Oui, nous n'avons plus accès à ces terres. C'était les terres dont nous dépendions.
Parmi les personnes qui ont joué un grand rôle dans l'intégration des réfugiés, il y a Isaac Ngonwin. Il est le District Assembly Representative de Tarikom, une sorte de leader communautaire élu. Bonjour, monsieur Ngonwin. Comment s'est passée la première rencontre ici avec les réfugiés ?
C'est précisément en juin 2023 que nous les avons reçus. Tout le monde était curieux de rencontrer des gens qu'ils n'avaient jamais vus de leur vie. Donc les villageois étaient contents. Mais après quelques jours, ces derniers ont commencé à écouter des informations comme quoi les personnes qui avaient attaqué ces réfugiés les suivraient par tous les moyens jusque dans la communauté dans laquelle ils vivent. Et les habitants de Tarikom ont alors commencé à avoir certaines pensées et perceptions négatives. Et pour beaucoup, à chaque fois qu'ils voient des étrangers poser des questions ou même leur demander leur chemin, pour des raisons de sécurité, ils ne veulent pas leur parler. Mais les services de sécurité du Ghana, le chef de la sécurité et même la sécurité de la présidence sont venus ici et les gens ont été rassurés. Ils ont compris que leurs craintes ne se produiraient pas. On est encore en train d'expliquer les choses, de parler aux habitants de Tarikom. Mais je pense que tout va bien maintenant.
Ces personnes sont venues de régions en conflit. Elles peuvent être blessées psychologiquement. Comment est-ce que vous, en tant que leader communautaire, vous faites pour les intégrer et pour bien les comprendre ?
Ouais, c'est vrai. Certains d'entre eux ont peur de vous dire ce qui s'est réellement passé. Mais d'autres, lorsque vous les approcherez, vous racontent ce qu'il s'est réellement passé. Il y avait une femme qui m'a dit que les attaquants étaient venus, qu'ils avaient tué le mari et les enfants devant ses yeux. Donc, certains d'entre eux, quand vous les voyez, vous avez envie de leur donner 10 cédis, 20 cédis, 50 cédis, juste pour leur faire ressentir l'accueil du Ghana.
Comment se passe l'intégration des réfugiés au quotidien.
Ici, les enfants vont à l'école tous ensemble, et les demandeurs d'asile et les villageois. La clinique que nous avons ici est à la fois pour les réfugiés et la communauté. Nous faisons tout en commun. Leur venue a également été bénéfique pour la communauté, dans la mesure où, je ne sais pas si c'est à cause de leur présence, mais nous n'aurions même pas eu l'électricité, et on a aussi mécanisé notre clinique. En tant que communauté, nous disons que si on veut une bonne intégration, on doit penser aux villageois qui se demandent « Mais pourquoi nous, nous sommes les pauvres dans tout cela ?» Ces réfugiés viennent d'arriver. Ils ont reçu de l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais pas le village. Et quand ils sont arrivés, nous leur avons donné nos terres. Donc pour ceux qui viennent d'ici, notre demande en tant que communauté, c'est l'extension du réseau électrique dans le village, et puis la clinique.
Pour Isaac Ngonwin, il est donc important que les organisations internationales n'oublient pas les villageois. Nous nous déplaçons à quelques kilomètres de Tarikom pour aller dans la ville de Zébila. C'est dans la radio locale Zebs FM que nous retrouvons Jarvis Avoka, manager de cette radio et journaliste. Bonjour Jarvis, vous pouvez nous expliquer sur quoi porte cette émission ?
Donc dans ce programme, nous entendons la voix de M. James Ayaraga, le directeur adjoint du ministère de l'Éducation. Il parle dans cet épisode des enfants réfugiés. Il se concentre ici sur la manière dont les enseignants, les enfants et les parents peuvent aider ces enfants à s'adapter à notre système ici au Ghana.
Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain ?
Au cours des deux dernières années, nous avons eu de nombreux cas de personnes fuyant le Burkina Faso. Par exemple, le 23 décembre 2022, j'étais dans un village appelé Widnaba, dans le district de Bafou Ouest. Des femmes et des enfants avaient traversé la frontière à pied dans une ville, c'est plutôt un village, appelé Zaribuku, et ont été forcés de fuir vers le Ghana pour des raisons de sécurité. Ils ont été accueillis par les Ghanéens, mais leur nombre était si grand que nous avons dû immédiatement informer les autorités pour assurer leur sécurité. Les autorités les ont sécurisés, ils les ont contrôlés, ils ont écrit leur nom, ils ont tout enregistré. Après un certain temps, la plupart d'entre eux ont dit qu'ils voulaient rentrer et ils ont été autorisés à rentrer. Mais ceux qui ne se sentaient pas en sécurité, on leur a donné un endroit où dormir à Widnaba. Après, ceux-là aussi sont repartis chez eux.
Est-ce que vous avez aussi été témoin de réfugiés qui avaient quelques difficultés en arrivant au Ghana avec la population ?
À Garou, dans le district de Garou, dans la région du Nord-Est, début 2023, j'ai fait état de la montée des tensions entre les Burkinabés réfugiés et la population locale. La population locale n'était pas contente car elle estimait que les Burkinabés permettaient volontairement à leurs animaux de se nourrir de leurs récoltes. Mais il s'est avéré que non. Ces gens, parce qu'ils étaient étrangers, ils ne connaissaient rien de la région. C'est plus tard que les chefs et les autres leaders ont pu résoudre ce problème. Certains des réfugiés qui possèdent des animaux les ont confiés aux familles d'accueil pour qu'elle les aide à en prendre soin.
Nous nous rendons à Accra, dans les bureaux du Ghana Refugee Board, l'institution ghanéenne pour les réfugiés. Son directeur, M. Tété Paddy, nous reçoit. Bonjour Monsieur Paddy, pourquoi avoir construit un camp de réfugiés à Zébila?
Tout d'abord, il y a une raison sécuritaire à cela. Il est important de savoir qui est ici et où les personnes se trouvent exactement. Même si le Ghana permet aux réfugiés et aux demandeurs d'asile de vivre au sein des communautés ou familles d'accueil, dans ce cas particulier, il était important que nous fassions un camp, parce que cela est proche de nos frontières.
Et comment vous enregistrez les réfugiés?
Les demandeurs d'asile viennent au centre d'accueil du camp. Ils sont enregistrés, soumis à un contrôle de sécurité, à un contrôle de santé et à d'autres aspects de contrôle. Puis ils sont transférés dans le camp.
Et si une personne souhaite partir du camp, comment faites-vous?
Nous exigeons que toute personne qui souhaite quitter le camp s'inscrive auprès de nous ou en informe la direction du camp. Ils doivent nous dire où ils vont et pourquoi ils y vont.
La plupart des réfugiés rencontrés se plaignent de n'avoir aucune activité sur le camp. Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux?
C'est dans le projet de leur donner des terres agricoles que nous avons déjà acquises. Notre partenaire en charge des moyens de subsistance a acquis des ruminants et de la volaille pour des réfugiés qui souhaiteraient avoir des animaux. Dans les camps que nous avons créés par le passé, nous avions mis en place toutes sortes d'activités, de la couture à la fabrication de savon, en passant par la coiffure, la mécanique automobile, les technologies. Il y a beaucoup de modules.
Depuis notre interview en février, Tété Paddy affirme que certains réfugiés ont déjà reçu des animaux pour l'élevage ou encore quelques aides pour faire du commerce. Et ces villageois qui ont donné leurs terres aux réfugiés, ils ont peur d'être laissés pour compte et réclament par exemple plus d'électricité.
Oui, c'est essentiel que nous répondions également aux besoins en infrastructure de la communauté, parce que les réfugiés partagent les services avec la communauté d'accueil.
Depuis 2022, le Ghana Refugee Board estime qu'environ 15 000 personnes seraient arrivées dans le nord du pays. Un peu plus de 1 000 réfugiés ont été placés dans le camp de Zébila. D'autres sont restés dans des familles d'accueil. Un autre camp vient d'être construit à Zini, dans le nord-ouest du pays. En juillet 2023, le Ghana avait été accusé par l'ONU de renvoyer des réfugiés vers le Burkina Faso. Mais selon Accra, il s'agissait de rapatriements volontaires et d'une opération de sécurité et de contrôle de personnes, rappelle M. Paddy.
Ce sont les services de sécurité qui connaissent les personnes qui ont eu une assistance au retour. Nous, au bureau ghanéen des réfugiés, nous enregistrons les personnes autorisées par les forces de sécurité.
Une communauté se sent pourtant rejetée par le Ghana. C'est la communauté Peul. Au moment du reportage, début février 2024, aucun Peul n'était présent dans le camp. À Accra, nous rencontrons Yakubu Moussa Bari, le secrétaire général de l'association des Peuls au Ghana. Il souhaite faire un plaidoyer sur sa communauté. Et il l'affirme, les personnes renvoyées en juillet 2023 étaient bien des Peuls.
Seuls des Peuls étaient rapatriés au Burkina Faso. Le service de sécurité nationale a mené cette opération en collaboration avec l'immigration et l'armée. De nombreuses organisations internationales se sont prononcées et ont condamné leurs actes. C'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était une erreur. On a été invités à discuter avec les forces de sécurité. Nous nous sommes assis et nous avons délibéré. Ils ont accepté leur faute et c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté l'opération.
Vous dites régulièrement que les Peuls sont stigmatisés. Comment cela se manifeste ?
Nous sommes marginalisés à tel point que cela se manifeste dans la perception des gens. Lorsqu'un Peul a commis un crime, toute la communauté Peul sera attaquée. Mais un simple villageois, un autochtone, commet un crime, alors on dira que c'est un individu. Mais si un Peul commet un crime, alors toute la communauté Peul sera attaquée.
La question des Peuls reste délicate dans de nombreux pays. Ce peuple d'origine nomade est souvent associé dans l'imaginaire collectif aux divers mouvements djihadistes du Sahel. Mais il en est aussi l'une des principales victimes. Pour l'ensemble des réfugiés des zones en conflit, le Ghana reste un havre de paix. Il n'a pas connu d'attaque terroriste sur son sol, contrairement à ses voisins, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire.
Caroline Chauvet, bonjour.
Bonjour Patrick.
Vous êtes journaliste indépendante installée au Togo. Vous étiez dans le camp de Zébila, s'est déplacé du Burkina. Comment avez-vous ressenti la situation sur place ?
Eh bien oui, c'est vrai que ces gens que j'ai pu rencontrer sont quelque peu traumatisés par ce qui leur est arrivé. La plupart de ceux que j'ai vus avaient vu de leurs yeux leurs voisins ou des membres de leur famille être tués. C'est donc très perturbant pour eux, j'imagine surtout pour les enfants. Il y avait beaucoup d'enfants très jeunes dans ce camp. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler de leurs souvenirs avec eux, mais je me doute qu'ils seront marqués toute leur vie. On l'entend dans le reportage, les villageois essayent d'apporter tout le réconfort possible à ces réfugiés dans ce camp. Donc se sentir écouté pour ces Burkinabés, c'est déjà une bonne chose, mais le fait qu'on fasse le reportage sur eux aussi, ils semblaient vraiment reconnaissants qu'on vienne les voir. Ça veut dire qu'on ne les oublie pas, qu'on s'intéresse à eux, à leurs conditions. Mais quand même, au-delà des traumatismes liés à ces attaques elles-mêmes, je pense que c'est aussi la condition de vie de ces déplacés, leur vie dans la pauvreté, les incertitudes sur leur futur qui les inquiètent et même les traumatisent aussi beaucoup.
Caroline, dans l'extrême nord du Ghana, où se trouve le camp de Zébila, c'est une zone rouge, on parle en l'occurrence de sécurité. Est-ce que c'est quelque chose que l'on ressent sur place ?
Oui, c'est vrai que cette partie du Ghana est en zone rouge. Ce n'est pas tout le Ghana, tout le nord Ghana bien sûr, c'est vraiment une petite partie. C'est parce qu'il est proche du Burkina Faso, qui est, comme on le sait, en proie depuis des années à la violence et aux attaques des mouvements djihadistes extrémistes, et aussi à toutes les répressions que cela peut engendrer au Burkina. Donc on remarque même d'ailleurs que les réfugiés dans le reportage ne parlent pas trop de qui les a attaqués, ils ne savent pas qui étaient ces gens, il y a une forme de peur ambiante parmi eux. Donc la zone rouge, c'est pour les Occidentaux comme moi par exemple, ça signifie qu'il y a des risques d'enlèvement. Mais au Ghana, surtout dans le nord-est, il existe aussi un conflit communautaire qui dure depuis des années et des années dans la ville de Boku. Et il oppose les Kusasi et les Mamproussi. Et ce conflit s'est même accentué ces derniers mois avec des morts.
Néanmoins, j'imagine que la sécurité est renforcée.
La sécurité dans le nord du Ghana est renforcée. On voit régulièrement des forces armées qui font des contrôles routiers, par exemple. On m'a plusieurs fois arrêtée. Mais en réalité, on ne m'a jamais vraiment embêtée parce que j'étais journaliste ou française. Et au contraire, d'ailleurs, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si elle est vraie, mais que c'est plutôt le conflit de beaucoup qui préoccupait d'abord les Ghanéens de cette zone. Je rappelle aussi que le Ghana n'a pas connu encore d'attaque djihadiste sur son sol.
Donc pas de comparaison avec les autres pays de la sous-région.
Cette zone rouge au Ghana n'a rien à voir avec d'autres zones rouges qu'on peut par exemple voir au Togo voisin, où c'est carrément devenu une no-go zone, même pour les journalistes et pour les ONG qui doivent prendre des autorisations spéciales. Donc personnellement, moi, au nord Ghana, je ne me suis pas sentie en insécurité. Je ne me suis pas sentie non plus harcelée par les forces de sécurité.
Caroline, le reportage se termine sur la question des Peuls avec, on l'a entendu, des questions d'accueil les concernant. Est-ce que pour cette communauté-là, une solution existe ?
Bon, c'est vrai que la question des Peuls, c'est une question délicate pour l'ensemble de la région, donc pas que le Ghana. Et si la solution était simple et facile à appliquer, ce serait peut-être déjà fait. Par exemple, au Burkina voisin, ils sont souvent associés dans l'imaginaire collectif au mouvement djihadiste. Et au Ghana, ils sont souvent vus comme des étrangers, car c'est à l'origine un peuple nomade. On les accuse de beaucoup d'exactions, à tort ou à raison. Mais au Ghana, quand même, on remarque, par exemple, l'association des Peuls, Poulaku International Ghana, arrive à s'exprimer sur les médias. Donc déjà, ils ont une voix, les autorités les écoutent aussi. Et souvent, ces Peuls sont des transhumants dans le commerce du bétail. Donc par exemple, comme solution proposée par Poulaku International pour éviter les conflits avec des Peuls, l'association préconise la mise en place de corridors de transhumance qui soient vraiment bien établis et qui n'empiètent pas sur les cultures des agriculteurs et qui soient vraiment sécurisés.
Merci Caroline Chauvet.
Merci.
Reportage et témoignage, c'est la fin de ce supplément au grand reportage, chaque samedi et dimanche matin, 9h10 temps universel. Merci à Tiffany Menta, Eva Piedel, Alice Ménard pour la réalisation. Prochaine diffusion d'un grand reportage sur l'antenne de RFI, demain, 19h40 temps universel. Autopsie de la psychiatrie en France, quelle prise en charge pour les jeunes qui vont mal ? Bien peu, nous montrera Lise Verbeek. Dans un instant, le journal.